Le sang de la veine. Marie Chartron, Anne Fleury. Il était une fois, dans un pays lointain, une goutte de sang. Elle perle de l'écorchure d'une paysanne, s'écoule du nez fragile du chambellan ou dans le linge de la princesse. Que peut-on lire dans cette goutte de sang ? Comment a-t-on découvert sa trajectoire silencieuse dans le corps ? Imaginer la donnée pour qu'elle circule dans un autre que soi ? Et par quelles expériences, heureuses ou malheureuses, a-t-il fallu passer pour que cela fonctionne ? Comment le sang peut-il à la fois empoisonner et soigner ? Premier épisode, circuler, explorer.
Il a été retrouvé plusieurs pathologies, des infections également. Dans les dernières découvertes, il y a eu retrouvé une flèche qui aurait traversé un poumon d'Ozzy, hein, qui serait rentré en arrière de l'épaule, et puis qui aurait entraîné une plaie de l'artère sous-clavière, donc une grosse artère, qui aurait entraîné une hémorragie importante. Hein. Après, ça peut être accidentel, ça peut être volontaire. Et puis, est-ce que c'est vraiment cette hémorragie qui a entraîné le décès ? Il y a eu des analyses qui ont été faites, notamment dans le sang, mais en sachant encore une fois qu'on fait, c'est pas une autopsie complète, hein, mais uniquement des prélèvements. Et notamment, ils avaient retrouvé de la fibrine. Hein. C'est une protéine en fait qui rentre dans le processus de cicatrisation. Donc, il ferait dire que il a peut-être eu une blessure, mais que ça a eu le temps. On a des phénomènes qui surviennent du vivant de la personne, qui montrent qu'il y a déjà une cicatrisation en cours. Donc, c'est encore discuté.
En 1991, un couple d'Allemands randonne à plus de 3000 mètres d'altitude dans les Alpes sud-tyroliennes de Lötztal, à la frontière italo-autrichienne. Il découvre par hasard, bien protégé dans une petite dépression, un corps momifié qui émerge de la glace. Commencent alors les spéculations sur l'âge, sur l'identité de cet humain qu'on appellera bientôt Ötzi, et sur les circonstances de son décès. C'est une véritable enquête policière qui durera 2 décennies. Au carrefour du droit et de la médecine, Cécile Manawil est médecin légiste et se confronte quotidiennement à ces questions.
Alors, quand on trouve un corps, la première chose qu'on veut, c'est l'identifier. Et là, pour Ozzy, en l'occurrence, il y avait beaucoup de choses qui ont été trouvées autour du corps, hein, qui ont permis d'avoir une idée sur de quand il date. Comme c'était très ancien, hein, plus de 5000 ans, l'intérêt, c'est aussi de faire des recherches sur possiblement des maladies qu'il avait. On ne sait pas si elles existaient déjà il y a 5000 ans. Il a été retrouvé aussi en analysant son estomac, qu'est-ce qu'il mangeait, quel était un petit peu son état général, comment il vivait. Ça donne beaucoup d'informations aux historiens.
Thierry Perrard.
Là, en fait, ce sont les conditions conservations qui ont été favorables pour cela, puisque à des températures très très basses, on peut retrouver des liquides biologiques. Ce qui est compliqué, c'est que les globules rouges, quand on les conserve pendant très longtemps à des températures très basses, quand la température remonte, ils vont en fait complètement éclater. Il faut être très très prudent dans le recueil de l'échantillon jusqu'à l'analyse. Donc là, c'est effectivement assez exceptionnel de pouvoir retrouver quelques traces de globules rouges qui ont permis, j'imagine, de faire les analyses de groupe sanguin.
Le sang qui coule dans les veines, c'est
Jean-Claude Dupont.
Un liquide qu'on appelle le plasma, qui contient un certain nombre d'éléments qu'on appelle les éléments figurés du sang, qui sont des cellules en réalité. Alors vous savez, les globules rouges, les hématies. Et puis, vous avez en gros les globules blancs. Hein.
Alors, je dirais que c'est un tissu liquide.
Jacques Chiaroni.
C'est-à-dire qu'il y a toute une partie cellulaire, comme un tissu. Les globules rouges, qui jouent un rôle important dans le transport de l'oxygène. Les globules blancs, qui jouent un rôle important dans les réponses immunitaires et dans la défense anti-infectieuse de l'organisme. Les plaquettes sanguines, qui jouent un rôle important dans la coagulation, pour éviter que nous ayons des hémorragies. Et toutes ces cellules flottent dans une partie liquide qui s'appelle le plasma. Et dans ce plasma, il existe de nombreuses molécules. Il existe de l'albumine, il existe des facteurs de coagulation, il existe des ions. On pourrait presque parler de milieu intérieur, vous voyez. C'est-à-dire que le sang permet de mettre en connexion l'ensemble des organes qui peuvent ainsi interagir entre eux au travers de ce fluide qui va permettre de les mettre en relation, où il y aura un tissu qui va synthétiser une molécule, qui va flotter dans le sang, qui pourra être amené à une autre cellule pour pouvoir agir, et ainsi de suite.
C'est aussi une voie de communication, le sang, puisque les hormones, par exemple, sécrétées par les glandes endocrines, agissent à distance sur les organes par l'intermédiaire du sang. Donc en réalité, le sang a de multiples fonctions. Ça a été assez difficile de comprendre toutes ces fonctions. C'est toute l'histoire de la physiologie occidentale depuis Harvey. Et évidemment, l'utilisation du sang comme vecteur d'indice pour la maladie en découle.
Sachant que là, c'est une momie naturelle, Audi. Hein. Ça, c'est important aussi, quand même. C'est une momie naturelle. C'est pas les momies égyptiennes. Les momies égyptiennes, c'est différent parce qu'il y a eu tout un travail d'extraction de fluides, de bandelettes, de produits potentiellement qui ont été utilisés, hein, qui peuvent interférer. Alors que là, c'est une momie qui s'est faite naturellement. Donc, on sait qu'au moins, il n'y a pas d'intervention humaine sur la momification. Donc ça élimine quand même des substances.
Ils ont aussi analysé du sang qui a été retrouvé sur le poignard d'Ozzy, sur des flèches d'Ozzy. Et donc ils ont retrouvé plusieurs sangs de personnes différentes. Hein. Donc ça c'était intéressant aussi pour l'enquête, puisque ça peut orienter sur le fait qu'il s'est battu. Mais est-ce que c'est juste avant la mort? Est-ce que c'est plusieurs... jour avant, c'est difficile à dire.
Comment, entre les premières théories médicales et l'hématologie aujourd'hui, s'est-on représenté le sang, sa présence et son rôle dans le corps? Alors que Tsi donne sans le savoir son corps et un peu de son sang à la science, quelques 5300 ans plus tard, Anja Ringaert commence son internat en hématologie à l'hôpital Cochin à Paris.
Le sang, c'est une partie du corps qui se régénère très rapidement, puisque chaque jour, on fabrique des centaines, des milliers de cellules pour le sang. Le globule rouge, ça a une durée de vie de 121 jours, donc on doit vraiment en fabriquer sans cesse. Les plaquettes, c'est encore moins, tous les globules blancs. Donc c'est vrai que chaque jour, on en produit beaucoup. Le sang, c'est composé, on va dire, du plasma, c'est un peu ce qui va être le liquide, ce qui fait le liquide du sang, et après il y a plein de cellules qui dérivent toutes de la même cellule souche, on appelle ça une cellule souche, et après toutes les cellules du sang, elles dérivent de cette même cellule.
Et c'est ça qui vous intéressait, le fait que tout émane de la même cellule ?
Oui, je trouve que c'est très intéressant quand on a compris que c'était la cellule originelle qui avait un problème et une maladie. Après, c'est tous les symptômes, on va dire, sont assez logiques à comprendre, en fait. En fait, une maladie, ça peut arriver rapidement parce que, vu que c'est une cellule qui se réplique, une des cellules qui se répliquent le plus dans le corps, c'est facile de faire une erreur dans la réplication et c'est ça qui peut donner une maladie.
Et comment on explique une maladie du sang à la personne à qui on l'annonce ?
C'est compliqué parce que c'est un cancer qu'on va annoncer, mais en général, c'est pas la représentation que les gens ont d'un cancer. Eux, ils se représentent une masse, quelque chose, enfin, vraiment une tumeur, alors que dans les cancers du sang, on n'a pas forcément une tumeur qui est présente, vu que par définition, c'est dans le sang, donc ça circule dans tout le corps. C'est un peu compliqué d'expliquer qu'il y a des cellules tumorales dans le sang et qu'elles peuvent un peu se déposer partout, et que par exemple, on peut avoir mal dans les os à cause d'un cancer du sang. Ça, parfois, les patients, ils ont un peu du mal à l'imaginer. Alors, je trouve que c'est ça qui est le plus dur à faire.
Michel Villemur, médecin responsable du pôle des collectes mobiles à l'établissement français du sang, Île-de-France.
La grande circulation, c'est le sang qui va du cœur dans les tissus. La petite circulation, c'est la circulation pulmonaire le sang va aller dans les poumons pour aller chercher, pour décharger le gaz carbonique et se recharger en oxygène par l'inspiration. Les globules rouges sont des cellules qui sont comme un disque et ont la particularité de pouvoir se déformer justement pour pouvoir rentrer dans les plus petits vaisseaux de notre corps, ce qu'on appelle les capillaires que vous avez par exemple au bout du doigt, dans la pulpe du doigt, il y a des tout petits vaisseaux et les globules rouges vont aller jusque là pour délivrer l'oxygène et reprendre le gaz carbonique. Les globules rouges doivent leur couleur à l'hémoglobine, la molécule d'hème qui est rouge. Alors, le sang artériel est représenté par la couleur rouge parce qu'il transporte l'oxygène du cœur vers les tissus. Et le sang veineux, on le représente habituellement bleu parce qu'il n'a plus d'oxygène, il est chargé de gaz carbonique. La grande circulation, c'est le sang qui va arriver dans l'oreillette gauche. Voilà, de l'oreillette gauche, il va partir dans le ventricule gauche. Voilà. Et là, il va aller dans l'aorte, qui est le gros vaisseau de l'organisme, le plus gros. Quand l'aorte elle arrive dans l'abdomen, elle se divise en deux pour aller dans les membres inférieurs. Donc là, ça va arriver jusqu'à l'orteil, ça va échanger, l'échange gazeux, et ça va remonter par les veines. Le sang veineux va revenir dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit pour aller dans le poumon, s'oxygéner et revenir dans l'oreillette gauche. D'accord ? Un individu adulte a environ 70 ml de sang par kilo de poids. Donc un individu qui pèse 50 kg, il a 3,5 litres de sang. À chaque fois que le cœur bat, c'est pour expulser le sang qui est dans le cœur et le cœur va envoyer le sang par l'aorte dans tout l'organisme. Cette activité de pompe est mesurée quand on va chez le médecin. Le médecin va surveiller la tension artérielle, qui en fait n'est pas la tension artérielle, mais la pression sanguine artérielle. Le chiffre le plus élevé, c'est la pression systolique, c'est quand le cœur se comprime et envoie le sang dans l'aorte. Et le deuxième chiffre, ce n'est pas une virgule, c'est un deuxième chiffre, c'est la pression sanguine diastolique, c'est au moment où le cœur se remplit du sang.
Un torrent ininterrompu qui circule et qui laisse quelques globules rouges miraculeusement retrouvés dans la blessure de Tsi. Et surtout, un sang qu'on décompose et qu'on analyse. Dans un lieu qui rassemble à la fois donneurs, infirmiers, biologistes, chaînes de préparation, de conservation et d'expédition des poches, l'établissement français du sang, en version courte l'EFS, fait figure de véritable atelier du sang.
Donc là, on vient de traverser la partie délivrance, où sont stockés les produits sanguins, donc les culots globulaires, les plaquettes, le plasma. Et donc, quand on reçoit des commandes de produits sanguins, les produits sont délivrés en fait dans ce secteur et partent directement dans les services cliniques pour être transfusés aux patients.
À Rennes, la biologiste Laurence Delugin dirige le laboratoire d'immunohématologie érythrocytaire. Nous nous attendions, dans une ignorance toute romantique, à trouver des microscopes et des collections de belles images cellulaires. Mais la réalité du sang contemporain est parfois tout autre. Pour tenter de la comprendre, il faut accepter de se plonger dans le système complexe des groupes sanguins, dans le monde invisible de l'immunité, des antigènes que l'on décrit comme une cohorte de petites étiquettes présentes à la surface des globules rouges et de leurs corollaires, les anticorps, produits par les globules blancs en réaction aux antigènes étrangers.
Là, on est vraiment au cœur du laboratoire. Dans ce laboratoire, il y a deux secteurs d'activité. Il y a cette partie du laboratoire qui est équipée d'automates, où on va faire essentiellement tous les examens de laboratoire à visée transfusionnelle, pour vraiment transfuser le patient. Dans l'autre partie du laboratoire, on fait plus ce qu'on appelle des examens d'immunohémato complexes. On se concentre essentiellement sur le globule rouge. C'est assez simple. On va d'un côté aller voir quels sont les antigènes présents à la surface du globule rouge et quels sont les anticorps présents dans le plasma. Donc quand les tubes arrivent, les prélèvements sanguins arrivent au laboratoire, on les centrifuge. Et cette étape de centrifugation permet de séparer le culot globulaire, les plaquettes et le plasma. Je peux vous montrer un tube, enfin juste pour que vous voyez un petit peu. Donc un tube, quand il arrive, le sang est tout rouge. Et donc une fois centrifugé, vous voyez, vous avez le culot globulaire ici, la couche plaquettaire et le plasma. Alors le culot globule rouge, il est rouge-brun. La couche leucoplaquettaire, où en fait on retrouve les plaquettes et les globules blancs, donc c'est plus une petite couche un peu blanchâtre. Et au-dessus, on a le plasma qui est jaune. Voilà, donc si vous êtes ictérique, il sera vert. Si vous avez mangé beaucoup de frites, il sera tout blanc, parce qu'en fait, on va retrouver la graisse au niveau du plasma. Quand vous faites une jaunisse.
Visuellement, on peut savoir si quelqu'un a fait un bon repas avant une prise de sang. Visuellement, on verra. C'est-à-dire qu'on verra les lipides, le plasma sera coloré. Ça sera très laiteux, en fait.
Jean-Baptiste Thibert.
Et ces globules rouges, ils sont faits d'hémoglobine, et cette hémoglobine, elle contient beaucoup de fer. C'est d'ailleurs le fer qui fixe l'oxygène, d'où peut-être ce goût particulier du sang. Son goût peut changer s'il y a une substance particulière dans le sang qui ne doit pas être... qui est là peut-être en quantité anormale. On peut penser au sucre, par exemple.
Donc le sang des diabétiques est sucré ?
Je n'ai jamais goûté, mais a priori, oui. Et c'est vrai qu'historiquement, dans la pratique médicale, le sang ou les urines étaient goûtées, oui, pour voir s'il y avait du sucre, voir s'il y avait d'autres substances qui pouvaient se reconnaître à l'aide de nos sens.
Bruno Danick, je suis médecin. Je suis directeur de l'établissement français du sang en Bretagne et j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la transfusion et notamment la collecte des produits sanguins et la préparation des produits sanguins. Pendant 15 siècles, jusqu'au XVIIe siècle, c'était les théories des Grecs et notamment de Galien, qui était un médecin de l'Antiquité, qui lui-même avait basé ses théories sur Aristote. Et en fait, l'idée était que le corps humain était régi comme le reste de la nature et probablement comme l'univers par les quatre éléments. Donc les quatre éléments que sont l'air, l'eau, le feu, la terre. Et ces éléments étaient représentés par quatre humeurs. Le sang, le phlegme, la bile et la trabile. Et c'était l'équilibre entre ces quatre humeurs qui garantissait la santé.
Le phlegme ?
Le phlegme, c'est un liquide, la lymphe, on appelle aussi la lymphe, et dans la théorie des humeurs, c'est un liquide en lien avec le cerveau. Le sang, c'était pas le sang tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans la théorie des humeurs, on pensait que le sang était fabriqué par le foie, à partir de l'alimentation, qu'il allait circuler jusqu'au cœur, là il allait se mélanger à l'air apporté par les vaisseaux, et acquérir dans le ventricule gauche ce qu'on appelait l'esprit vital, qu'il allait ensuite distribuer dans tout l'organisme.
Donc là, on est au second siècle après Jésus-Christ, donc Galien décrit des mouvements du sang, mais ce ne sont pas des mouvements circulaires, ce sont des mouvements de va-et-vient entre le centre, entre le cœur et la périphérie, c'est-à-dire les tissus. Et donc, le sang sort du cœur, pour Galien, et va vers la périphérie, et s'embourbe, c'est le terme, s'embourbe dans les chairs comme un marécage. Et donc, il n'y a pas de retour, si vous voulez, du sang vers le cœur. Les mouvements sont couplés avec les mouvements respiratoires. C'est pour ça qu'on peut parler de va-et-vient. C'est-à-dire, quand j'inspire, pour Galien, le cœur se remplit de sang. Et quand j'expire, le cœur se vide. Donc il y a un va-et-vient, si on veut, mais en définitive, le sang se perd à un moment donné dans les chairs et s'embourbe. Et le sang, d'ailleurs, se transforme en chair. C'est un mouvement pulsatile. Alors, le système exige qu'il y ait, à l'intérieur du cœur, une communication entre le cœur gauche et le cœur droit, donc des ports interventriculaires.
Pour Galien.
Pour Galien. Un passage de sang à l'intérieur du cœur entre la droite et la gauche, hein, le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc ça, c'est absolument postulé, c'est absolument nécessaire pour que son système mécaniquement fonctionne, y compris d'ailleurs le couplage avec les mouvements respiratoires.
Mais on était dans un concept d'un liquide qui distribuait l'esprit vital et les nutriments qui faisaient l'espèce d'ailleurs, et qui allait donc à la fois créer et entretenir les organes et les tissus. Donc il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas de circulation. Et on comprend que si le déséquilibre entre le sang et les autres humeurs était à l'origine des maladies, alors la meilleure façon de soigner était de saigner, d'enlever ces humeurs, et notamment parce qu'on considérait que le sang pouvait être trop chaud, trop froid, corrompu.
Les gens, à la base, ont une humeur qui domine. Hein. Par exemple, les individus sanguins, donc, qui possèdent plus de sang, ont donc une prédisposition à attraper des maladies riches en feu, riches en sang, des maladies sanguines. Alors, ça permet de comprendre également les remèdes, en utilisant le principe des contraires. C'est-à-dire qu'il faut, pour prévenir la maladie ou pour soigner la maladie, utiliser des aliments ou des plantes qui ont des caractères chaud, froid, sec, humide, antinomiques, en fait, qui contrarient le mélange de perturber des humeurs. Il ne faut pas, par exemple, utiliser des aliments riches en sang ou riches en feu. Alors c'est quoi, vous allez me dire, un élément riche en feu ou en sang? Ben, ce sont les épices, par exemple, les plats épicés. Et, par contre, il va falloir prendre, dans la même logique, des aliments hydratés qui vont refroidir, qui vont réhumidifier le corps. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'on voit quand on met une goutte de sang sous un microscope, Cécile Manaouil?
Moi, je suis médecin légiste, donc nous, on ne regarde pas au microscope. Hein, c'est le travail de nos collègues. Nous, en tant que médecin légiste, on prélève beaucoup. Hein, et puis après, il va y avoir des analyses qui vont être faites, les analyses toxicologiques et puis les analyses anatomopathologiques. Donc là, les anatomopathologistes nous sont précieux hein, pour regarder donc au microscope les prélèvements qu'on a faits sur une coupe de n'importe quel organe. Ils vont regarder les vaisseaux sanguins. Est-ce qu'il y a une thrombose? Est-ce qu'il y a de la fibrine? Hein, on va retrouver des éléments qui peuvent nous orienter vers un infarctus. Est-ce qu'il y a des phénomènes de coagulation qui nous permettent de dater les choses? Et puis, effectivement, alors après, il y a des colorations qui vont être faites. Hein. Donc, c'est tout un panel de couleurs essentiellement roses, quand même. Hein. On se moque toujours des anapathes en leur disant « tout est rose, la vie est rose avec vous ». Mais il y a beaucoup de colorations qui vont leur permettre de différencier des éléments. Après, honnêtement, ça nécessite une expertise. Hein, parce que ben voilà, c'est plusieurs années d'études pour arriver à décrypter hein, ces belles images roses qu'on peut voir comme des tableaux. Ça nécessite... une formation spécifique.
Il faut bien avoir en tête que le sang n'avait pas du tout les mêmes représentations que ce qu'on a aujourd'hui, et surtout, on ne savait même pas de quoi il était constitué. C'était un liquide. C'était un liquide dont, depuis toujours, y compris depuis la préhistoire, on avait simplement observé que quand il s'écoulait, quand il devenait visible, alors c'était pas bon signe. D'où toutes ces croyances aussi autour du sang. Hein, le sang... le sang visible des menstruations est considéré comme étant mauvais, comme un liquide qui souille. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore, qui est resté dans l'inconscient collectif. En fait, on a peur du sang quand on le voit. Alors que quand on imagine le sang qui circule, on pense à la vie. Et quand on voit le sang qui s'échappe de l'organisme, on pense à la mort. Et c'est toute l'ambivalence du sang, et ça depuis très longtemps, y compris depuis... Ça remonte même à avant l'Antiquité, puisqu'on retrouve ça sur les peintures rupestres, la fascination du sang qui coule à la chasse, qui est vraiment le symbole de la vie qui s'en va. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, quelque part, que de saigner, puisque les blessures qu'on n'arrête pas entraînent la mort, et pour autant, on était convaincu que la saignée était la seule façon de soigner la plupart des maladies, parce qu'il fallait enlever un sang qu'on estimait corrompu. Corrompu parce que trop chaud, parce que... on peut même pas dire aujourd'hui infecté par des miasmes, même si on suspectait que dans l'environnement, il pouvait y avoir des choses, notamment à l'occasion des grandes maladies, des grandes épidémies. Mais on ne connaissait pas les bactéries, on ne connaissait pas les virus, on ne connaissait pas les agents pathogènes, on ne connaissait pas les anticorps. Donc le sang était un liquide qui transportait simplement l'esprit vital à condition d'être en équilibre avec les autres éléments du corps humain.
Le sang, c'est aussi le feu.
Jean-Claude Dupont.
Donc par là, la médecine rejoint la chimie, qui est l'alchimie. L'alchimie médiévale, c'est la théorie des quatre éléments. Les éléments ont une charge symbolique. C'est une pratique fondée sur la répétition des expériences. Et c'est aussi, cette expérimentation, un moyen, et là on rejoint le mysticisme, d'élever l'âme de l'expérimentateur. On travaille la matière pour élever son âme. Évidemment, le but suprême, le grand œuvre, hein, comme on dit, c'est de pouvoir arriver à fabriquer de l'or, hein, c'est la fameuse transmutation du plomb en or, ou bien créer la vie. Créer la vie dans la cornue dans la cornue du laboratoire de l'alchimiste. Donc là, évidemment, on est dans des espoirs qui sont purement mystiques. Et finalement, c'est contre ce style de science, ce style de savoir, que vont réagir des gens comme Harvey, puis Descartes, etc. Donc il faut oublier toutes ces fumées, toute cette imprécision, toute cette et donc là on va changer de monde, mais on reste attaché quand même à la culture antique, à Aristote, à Galien, même si c'est pour l'attaquer, tout au moins au XVIIe siècle. On est dans une période hybride. Souvent, on dit que les Renaissances sont des Janus, c'est-à-dire des êtres qui, des savants d'une nature particulière, qui ont un visage, vous savez, tourné vers l'avenir et un visage qui regarde vers le passé, donc qui assume le legs ancien tout en le critiquant. Donc, on est vraiment dans une période de transition, ce qui rend évidemment la période tout à fait passionnante à étudier.
Ce qui va vraiment mettre à mal la théorie des humeurs, après 15 siècles de dogmes que personne ne contestait, c'est la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. On est en 1628.
Bruno Danik.
Il va mener pendant près de 20 ans des expérimentations pour prouver et démontrer ce que d'autres avaient quand même suspecté avant lui, mais ce qui va être fascinant avec William Harvey, c'est qu'il va vraiment conduire, comme on peut le faire en physiologie aujourd'hui, des expérimentations très documentées qu'il va publier. Et en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire là où on pensait avant qu'il y avait une porosité entre les ventricules, qu'au sein de ces ventricules, le sang allait s'enrichir de l'esprit vital, qu'il allait diffuser dans l'organisme. Lui, il va démontrer qu'il n'y a pas, il n'y a aucune porosité, enfin, il n'y a pas de porosité entre les deux ventricules et que si on injecte à travers les valves un liquide, il n'a pas d'autre solution que de s'évacuer par les vaisseaux et il va ainsi démontrer que le cœur n'est qu'une pompe. Bah, c'est pas péjoratif, mais le cœur est une pompe qui chasse le sang quand il se contracte dans les artères, que le sang va donc effectivement traverser et non pas se perdre dans les organes pour les constituer, mais les traverser puisqu'il revient vers le cœur à travers les veines et dans un système fermé et continu. Et ça, c'est une révolution qui va faire l'objet de débats passionnés pendant tout le XVIIe siècle, dans la mesure où il y aura les circulateurs et les anti-circulateurs qu'on retrouve dans le malade imaginaire de Molière. C'est-à-dire qu'une fois que Louis XIV, en 1672, va imposer cette théorie pour qu'on l'enseigne dans les facultés de médecine, alors, l'année suivante, Molière se moque ouvertement des médecins. Il avait déjà l'habitude de le faire, et notamment du père et du fils d'Iafoirus qui soutiennent malgré tout encore une thèse contre les circulateurs et revendiquent le droit à rester attaché au dogme.
Harvey s'intéresse au mouvement et explique au fond tous les phénomènes liés au corps par le mouvement. Le mouvement des particules, le mouvement du sang. Et donc le mouvement est à la mode. La science reine, à l'époque, la partie de la physique la plus importante au XVIIe, c'est la mécanique, qui est vraiment la science du mouvement. Alors on a un corps, on a un organisme qui est hybride, qui est
à la fois soumis à la mécanique du mouvement, mais également, pas chez Descartes, mais chez Harvey, il y a toujours ce cœur qui est un centre vital, qui est le siège d'une chaleur également, et qui permet de vivifier les parties.
Alors c'est vraiment en Angleterre que ça se passe, puisqu'après William Harvey, il y a deux grands savants, comme on les appelait à l'époque, sont Christopher Wren et Robert Boyle, qui vont faire, qui vont expérimenter des injections de liquide dans le sang. À partir du moment où le sang circule, il peut aussi être un support, un vecteur de produits qu'on peut injecter. Donc, ils font des expérimentations évidemment chez l'animal, pas chez l'homme, chez le chien notamment, et ils vont injecter toutes sortes de produits, de l'opium, du lait, tous les, mais simplement pour observer ce qui se passe. Alors, soit le chien s'endort, soit le chien convulse, soit le chien meurt. Mais en tout cas, ça prouve deux choses. Ça prouve que on peut injecter, et donc l'idée viendra ensuite, on peut soigner en injectant des produits dans le sang. Et s'il n'y avait pas eu la circulation, on n'aurait pas pensé à ça. Et puis ça montre aussi que le sang n'est pas un circuit totalement fermé, mais qui peut être en contact avec l'extérieur, puisqu'on peut y injecter des choses. Et l'idée va émerger, alors elle va émerger au XVIIe siècle, avec un de leurs élèves qui s'appelle Richard Lower, qui va se dire, mais quitte à injecter quelque chose, autant injecter du sang. Et même si on ne sait pas de quoi est constitué le sang, on sait que le sang qui s'échappe conduit à la mort. Donc il va saigner quasi à blanc un chien de taille moyenne, et il va ensuite réaliser une transfusion à partir d'une chienne qui, elle, est d'un gabarit plus costaud. Et il va démontrer que le chien qui était quasi mort, qui commençait à gasper, est ramené à la vie et en pleine forme. Et en fait, c'est l'idée que va émerger très vite l'idée que le sang est un nutriment universel.
On pensait que le sang des chiens était le même que le sang des humains, des lapins et des...
Alors, certains... Alors ça fait partie du débat qui va naître autour de la transfusion sanguine. Certains pensaient que oui, le sang était universel, et notamment les transfuseurs, sinon ils n'auraient pas osé le tenter, l'expérimenter. Donc les transfuseurs ont plutôt tendance à penser que le sang est un nutriment universel. Mais les antitransfuseurs, et notamment quand ils restent sur la théorie des humeurs, eux pensent au contraire que le sang est propre à l'espèce. Puisqu'ils restent sur l'idée que le foie, à travers l'alimentation, va émettre les nutriments qui permettent de former et d'entretenir les organes, c'est propre à chaque espèce, puisque certaines espèces ont des cornes, d'autres non. Certaines espèces ont des queues, d'autres non. Et parmi les arguments qu'ils mettront en avant pour discréditer la transfusion et pour dire que c'est une opération absolument diabolique, ils vont dire, mais les éléments constitutifs de l'espèce qui sont dans le sang, vous les injectez à un être humain, que va-t-il se passer? Ne va-t-il pas se voir pousser des cornes, se voir pousser une queue? Donc tout dépend de la conception à laquelle on adhère et à laquelle on croit.
À la fin du XVIIe siècle, c'est l'apparition du microscope. En fait, les microscopes à l'époque sont plutôt des grosses loupes. Et sont pas aussi performants que les microscopes qu'on va utiliser à partir du 19e, qui est tout un appareil optique. Les gens qui sont on appelle ça les micrographes, parce que ils vont prendre l'habitude de faire des dessins de ce qu'ils observent au microscope, enfin à la loupe. Donc c'est le courant dit micrographique, hein. Ce sont des naturalistes ou des médecins, mais qui s'intéressent aux images microscopiques. On arrivait à distinguer les éléments à une certaine échelle. Par exemple, on voyait les globules sanguins, les globules rouges, on voit ça. Après, en dessous, c'est-à-dire l'échelle, par exemple, de la bactérie, ça, c'est beaucoup plus difficile. On a pu reconstruire. Il y a une discipline qui s'appelle l'archéologie historique. On essaye d'utiliser les instruments de l'époque. Problème, c'est que... nous, quand on utilise ces instruments-là, on les voit avec les yeux d'aujourd'hui. On utilise nos yeux d'aujourd'hui. Donc quand on sait qu'il existe des bactéries, par exemple, on sait que ça existe, on va aller regarder. On n'est pas du tout dans la même situation que le chercheur de la fin du XVIIe qui découvre le monde microscopique et qui n'a pas forcément cette orientation-là du regard. Ensuite, au 19e, les instruments vont se perfectionner, notamment en Allemagne. Et on va arriver à des microscopes très très précis. Et alors maintenant, on a encore mieux, mais bon, c'est sans fin.
Et bien là, par contre, je distribue les globules rouges de mon patient et je vais aller mettre dans cette cupule un anticorps anti-grand D. Donc le grand D, c'est le rhésus, qui est très connu dans la population générale. On sait que, par exemple, en Europe de l'Ouest, 15% de la population est rhésus neg et le reste est rhésus plus. Je vais aller rechercher la présence ou pas du grand C, du petit C, du grand E, du petit E et également de l'antigène KEL. Et là, vous voyez, je vois que mon patient, non seulement je vois qu'il est de groupe A, mais je vois également qu'il est rhésus positif et qu'il exprime l'antigène grand C, petit C, petit E et l'antigène KEL.
L'idée, si vous voulez, au 19e siècle, le contexte, il faut se rappeler du contexte, le laboratoire, ce qu'on appellerait aujourd'hui le laboratoire de biologie médicale, clinique, émerge au 19e siècle. Donc les examens biologiques tendent à s'imposer en médecine. Alors les premiers laboratoires, c'est tout petit. Ces premiers laboratoires sont annexés aux hôpitaux. Et c'est une toute petite partie. Il y a un historien qui raconte qu'au milieu du 19e, l'ensemble des examens biologiques qu'on pouvait faire dans le sang et les produits qui étaient nécessaires à ces examens, ça tenait sur un appui de fenêtre. C'était vraiment... Et en plus, il y avait une résistance d'une grande partie du corps médical qui se fonde sur l'idée que la clinique suffit quelque part. La clinique externe, si vous voulez, suffit à l'art du médecin. Alors la logique, si vous voulez, d'utiliser des examens biologiques pour diagnostiquer les maladies, qui nous paraît évident aujourd'hui, en réalité, est polémique à l'époque, pose problème. Et on sait bien que Claude Bernard, par exemple, va défendre cette idée.
Qu'est-ce qu'on analyse?
Au 19e siècle, on est capable déjà de doser, donc, par exemple, le sucre dans le sang. On sait doser le cholestérol. On fait des analyses d'urine. C'est dans cette perspective que le sang va être exploré, dans le cas particulier, des maladies mentales également. Alors, il va y avoir différentes phases de cette exploration. Alors, le plus simple... Au départ, donc là on est autour de 1850, c'est l'époque de ce qu'on appelle les biomarqueurs sanguins. Alors le mot biomarqueur n'existe pas encore à l'époque, mais ce sont des indices, des marques de la maladie. Alors au départ, tout simplement, on fait l'énumération sanguine. On compte les globules rouges, les globules blancs, surtout les globules rouges d'ailleurs, et... On cherche à détecter des différences au sein des asiles, entre les patients et puis le personnel de l'asile, par exemple. Ce sont les travaux de Lindsay, William Lindsay. Et on ne trouve pas de différence significative entre les malades et les personnels de l'asile. Alors, il y a d'autres études, par exemple celle de Samuel MacPhail en 1884 à peu près, qui, lui, trouve des différences. Mais là, il faut lire ça, évidemment, de manière extrêmement critique. C'est peut-être que le personnel est mieux nourri que les malades. Donc on peut regarder la composition du sang en éléments figurés. Et puis à un moment, on va avoir, plutôt à la fin du 19e siècle, on va se tourner vers les hormones. Donc le concept d'hormone va, largement sous l'impulsion de Claude Bernard aussi d'ailleurs, s'imposer. Le mot hormone date de 1905, vous voyez, donc, et à partir de là, l'histoire des hormones, c'est l'histoire de leur détection, largement, et des progrès techniques qui correspondent à ces détections. Alors, les hormones agiraient, c'est Kraepelin, qui est le grand aliéniste de l'époque, il y a un courant très de psychiatrie biologique, très biologisant à la fin du 19e. Alors, il y a le courant freudien, tout ça, ça c'est autre chose. Il y a aussi des psychiatres qui croient en la biologie. Et Kraepelin, par exemple, pense que les hormones, à un moment donné, atteignent le cortex cérébral et peuvent provoquer des maladies type démence précoce, donc les psychoses, quoi, en gros. Et donc, il y a cette hypothèse. Hein. Évidemment, tout ça n'est pas étayé du tout, même expérimentalement. Hein. Mais il y a quand même, entre les deux guerres, de très nombreuses recherches qui se font sur ces bases, donc, soit hématologiques, soit immunologiques, soit endocriniennes, métaboliques, si on veut, sur le sang des fous et sur la manière dont on pourrait différencier les individus malades des individus non malades, rien qu'en examinant le sang.
Si par exemple on s'amusait à faire la microscopie électronique sur du sang frais, vous avez les globules rouges, en fait, ils sont discoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont ronds, mais un peu comme des petits coussins, un peu enfoncés au milieu, enfin vraiment comme un petit coussin rond. Donc ça, c'est un globule rouge en pleine forme qui vient d'être formé et qui, là, pour le coup, apporte un rendement transfusionnel intéressant pour le patient. Après, le globule rouge, il a il vit 120 jours. Et au fur et à mesure de sa vie, il va perdre un petit peu en performance. Et donc, à la fin de sa vie, le globule rouge, ça devient une échinocyte. Et donc là, vous allez avoir des petits spicules qui vont apparaître à la surface du globule rouge. Et ça, on sait que c'est un globule rouge qui est un peu en train de mourir. En fait, le globule rouge se déforme et devient vraiment vilain, quoi.
Au tout début du XXe siècle, en 1901, il y a un médecin autrichien, Karl Landsteiner, qui travaille dans une équipe qui a observé que les globules rouges avaient la capacité de s'agglutiner. Mais pourquoi s'agglutinent-ils ? Est-ce qu'ils s'agglutinent parce qu'il y a des traces d'infection, comme pour la diphtérie, et que c'est une réaction post-infectieuse ? Ou est-ce que c'est un autre phénomène naturel ou de dégénérescence des globules rouges qui n'a rien à voir avec une infection? Et donc, il va décider de faire une expérience toute simple. Il va prendre son équipe au laboratoire et il va prélever le sang de chacun et mélanger les globules rouges de chacun avec le sérum, le sien d'abord et celui des autres. Et il va démontrer...
Le sérum, qui est en fait
la partie liquide du sang, hein, une fois qu'on a laissé les globules rouges décanter dans le tube. Sérum dans lequel il y a les anticorps. Et en fait, il va démontrer deux choses. Il va démontrer que quand on reconstitue le sang d'un même individu en mettant son sérum et ses propres globules rouges, il n'y a jamais d'agglutination. Il va démontrer que il y a des sérums qui agglutinent tous les globules rouges de tous les membres du laboratoire, un sérum qui agglutine tous les globules rouges et d'autres qui agglutinent uniquement certains globules rouges, pas toujours les mêmes en fonction de la personne du laboratoire. Au final, il va décrire trois groupes sanguins qu'il va appeler ABC. On sait aujourd'hui, par exemple, que le sérum qui agglutine tous les globules rouges, c'est le sérum du groupe O, puisque dans le groupe O, il y a des anticorps anti-A, des anticorps anti-B, et que, évidemment, il n'agglutine pas le sien, puisqu'il n'y a pas les antigènes A et B sur les globules rouges, et que, de toute façon, on agglutine, heureusement, jamais ses propres globules rouges. Mais en revanche, il agglutine les globules rouges de groupe A, de groupe B et de groupe AB. Mais là, l'équipe était trop restreinte. Il n'a pas découvert encore le groupe AB. Il n'a découvert que, sans le savoir, le O, le A, le B. Son équipe va continuer les travaux, démontrer qu'il y a un quatrième groupe qui, lui, n'agglutine jamais les globules rouges, c'est le groupe AB, enfin, dont le sérum n'agglutine jamais les globules rouges, et c'est le groupe AB. Et cette découverte lui vaudra 30 ans plus tard le prix Nobel.
Alors ensuite, l'examen qui est hyper connu ici, c'est le groupe sanguin. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe à peu près 380 antigènes décrits qui potentiellement peuvent être présents à la surface des globules rouges. Mais parmi ces 380 antigènes, tout ne nous intéresse pas. Il y en a finalement très peu qui ont une incidence en transfusion. Et les principaux, je dirais que c'est vraiment le groupe sanguin. Donc quand on fait le groupe sanguin, on va aller déterminer le groupe ABO. Et on va aller également déterminer la présence ou pas d'antigènes du système rhésus et également la présence ou pas de l'antigène KEL. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour le groupage ABO, s'il y a des anticorps à se fixer sur un antigène, ça se voit en fait vraiment à l'œil en quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'artifice en fait pour voir cette agglutination. Donc là, je vous ai mis sur cet automate comment ça fonctionne. Donc vous avez une microplaque, ce qu'on appelle une microplaque, c'est une plaque en plastique d'une dizaine de centimètres. Et donc chaque ligne correspond au résultat de groupe sanguin pour un patient. Là, dans les deux premiers puits, on a mis en fait les globules rouges du patient et on est allé rechercher la présence ou pas de l'antigène A et de l'antigène B. Et si jamais l'anticorps qu'on a mis en présence avec le globule rouge a reconnu l'antigène correspondant, eh bien, on a une agglutination. Vous voyez le bouton là qu'il y a au fond de la cupule, ça veut dire que j'ai mis les globules rouges de mon patient, j'ai mis l'anticorps anti-A et c'est bien positif, j'ai bien l'antigène A à la surface de mes hématies. Ça veut dire que très certainement, cette personne-là, elle va être de groupe A. À côté, j'ai fait la même chose avec un anticorps anti-B. Et là, vous voyez, j'ai un voile rosé au fond de ma cupule. Donc là, j'ai une réaction négative. Mais on va également aller rechercher la présence d'anticorps. Et là, c'est l'épreuve de Simonin. Parce que quelqu'un de groupe A va avoir de façon naturelle et régulière de l'anticorps anti-B dans son plasma. Ça, c'est vraiment la définition. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin ABO ? Quelqu'un de groupe A, il a de l'antigène A, il a des anticorps anti-B. Quelqu'un de groupe B, il a des antigènes B, des anticorps anti-A. Quelqu'un de groupe O n'aura ni l'antigène A, ni l'antigène B, mais par contre aura de l'anti-A et de l'anti-B. Et quelqu'un de groupe AB aura à la fois l'antigène A et B, mais par contre dans son plasma, on ne retrouvera pas d'anticorps. Ça explique que, par exemple, quelqu'un de groupe AB est super intéressant en tant que donneur de plasma, parce que son plasma est dépourvu d'anticorps. Donc, en fait, ce plasma peut être donné, je simplifie un peu le trait, mais est dit donneur universel en donneur de plasma. Quelqu'un de groupe O, par contre, lui sera intéressant dans le cadre du don de culots de globules rouges, puisque ses hématies sont dépourvues d'antigènes A et B.
Il y a eu beaucoup d'études, certaines d'ailleurs publiées dans des revues au demeurant très prestigieuses. Par exemple, dans les années 70, dans la très célèbre revue Nature, je dirais, où tout chercheur rêve de publier dans sa carrière. Eh bien, en 1973, si je me souviens bien, a été publié un article disant que les personnes du groupe sanguin A2, donc c'est un sous-groupe du A, seraient les plus intelligentes, avec le plus haut quotient intellectuel, par exemple. Tout ça reste quand même encore très ancré, encore aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Dans les années 2000, l'association entre les groupes sanguins et les régimes alimentaires, où certains livres vont vous préconiser des aliments ou pas, selon votre groupe sanguin, alors c'est principalement le A, le B, le AB et le O. Ou encore l'exemple du Japon où les groupes sanguins sont extrêmement importants dans la culture japonaise, que ce soit au niveau du recrutement. Les recruteurs sont très sensibles aux groupes sanguins des futurs recrutés. Et également dans le cadre de l'association des couples. Il existe d'ailleurs des tableaux de compatibilité plus ou moins importantes entre le groupe sanguin ABO du conjoint et de la conjointe. Et bon, pour nous, ça paraît un petit peu cocasse, mais voilà un exemple de diversité culturelle qu'il faut savoir bien sûr respecter. Si on en revient à l'exemple des régimes, tout ça a été fondé sur le fait que, c'est d'ailleurs une erreur scientifique, que ce serait le groupe sanguin O qui aurait été le premier à être apparu dans l'humanité, ce qui a qualifié le nom de groupe chasseur. Autrement dit, il doit manger de la viande, pour faire simple. Le groupe sanguin A serait apparu plus tard, et encore une fois, c'est une erreur scientifique, puisque c'est le groupe sanguin A, en l'occurrence le groupe sanguin A1, qui est le plus ancien dans l'humanité, serait le groupe cultivateur. Le groupe B serait un peu plus le groupe intellectuel. Voilà, donc ça peut paraître assez fou, mais ce type de livre, je pense en particulier à l'un des auteurs américains,
a permis de gagner des fortunes à leurs auteurs.
À 3000 mètres d'altitude à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, Ötzi et ses trois globules rouges préservés se prêtent au jeu de l'analyse. Pour son dernier repas, il a ingéré des céréales et de la viande de bouquetin. Il a des calculs biliaires, pas de dents de sagesse et des problèmes articulaires. Il est de groupe O+, semble intolérant au lactose. Il a une prédisposition pour les maladies cardiovasculaires. Il ferait partie d'un groupe de population venue de l'Est avec la révolution néolithique. Et l'on observe chez lui des similitudes avec des humains qui peuplent aujourd'hui le nord de la Sardaigne et le sud de la Corse. Mais ça, on l'a trouvé en analysant son chromosome Y. Pourtant, même sans analyse génétique, les groupes sanguins peuvent raconter l'histoire des grandes migrations et des peuplements humains. Jacques Chiaroni, hématologue.
En effet, comme vous le dites, les groupes sanguins peuvent être les témoins de l'histoire et de l'évolution de l'homme. Alors, d'une manière générale, on sait que la diversité génétique humaine est façonnée par ce que l'on appelle des forces évolutives qu'ont pu rencontrer les populations humaines au cours de leur histoire. Il s'agit d'abord de la sélection naturelle, qui a permis à l'homme de s'adapter à différents écosystèmes, comme le climat, l'altitude, l'alimentation, ou surtout les pathogènes. Mais surtout et aussi des événements démographiques qu'ont pu vivre certaines populations, comme les migrations. Eh bien, les groupes sanguins n'échappent pas à cette règle. Ils ont d'ailleurs été, il faut le savoir, les premiers marqueurs à être utilisés en génétique des populations. C'est ainsi que, ils présentent une répartition géographique préférentielle et on voit qu'il existe des groupes sanguins qui peuvent être fréquents dans certaines populations, rares, voire absents dans d'autres. Prenons l'exemple d'un groupe sanguin qui s'appelle Diego A. Eh bien, ce groupe sanguin qui est apparu en Mongolie a une double histoire extraordinaire. Sa première histoire débute il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, il a accompagné les premières populations qui ont passé le détroit de Bering, à pied sec à l'époque, puisque c'était pendant la période glaciaire, et le niveau des mers avait 100 mètres de moins, et on pouvait passer Bering à pied sec. Et ce groupe sanguin a accompagné ces premiers humains qui sont passés et qui ont peuplé, l'Amérique. En gros, Diego A, à cette période, semble avoir accompagné la vague qui a amené le groupe sanguin O, puisqu'il en a la même répartition. Il a passé Bering, il a traversé l'Amérique du Nord, il est allé jusqu'en Terre de Feu. Ça, c'est son histoire il y a 20 000 ans. Il y a maintenant, de façon beaucoup plus récente, on arrive au XIIIe siècle. Et quand on regarde la répartition de Diego A dans toute l'Eurasie, on se rend compte que cette répartition dessine quasiment l'empire mongol tel qu'il s'étendait des portes de l'Europe jusqu'au Pacifique. Et on a imaginé que ce groupe sanguin Diego A qui est apparu en Mongolie a probablement accompagné ces grandes expansions et ces grandes invasions mongoles et il en a laissé des traces que l'on retrouve aujourd'hui, voire même quand on regarde la répartition de ce groupe sanguin, on voit qu'il y a aussi une corrélation avec la répartition des langues turco-mongoles. Donc vous voyez là encore une approche multidisciplinaire, à la fois évidemment historique, préhistorique, linguistique et génétique, qui donne un certain nombre d'informations qui vont un petit peu toutes dans le même sens. Alors évidemment, je vais le dire de façon totalement humble, il s'agit de l'histoire d'un gène qui est le reflet probablement de l'histoire des populations, mais il ne faut pas se contenter que de cela pour avoir des conclusions définitives, bien entendu.
Pour nous, médecins légistes, justement, le sang, pour le coup, on y est vraiment confronté parce que on vient sur des scènes de crime où on arrive au domicile de personnes et où il y a une grande flaque de sang. Et puis après, lors de l'autopsie, on ouvre en grand, quand même, pour voir tous les organes. Et donc, littéralement, on baigne dans le sang. Et ça m'amuse toujours de voir les étudiants en médecine, quand ils viennent assister à des autopsies, sont étonnés parce que eux, ils sont habitués au bloc opératoire. Et avant, effectivement, les chirurgiens, ils ouvraient en grand pour opérer.
Désormais, la majorité de la chirurgie, ça se fait par des toutes petites ouvertures. On fait ce qu'on appelle la célioscopie, hein, où on va opérer en faisant un petit trou, on met une caméra, et puis voilà. Et en fait, ça saigne pas. Au bloc opératoire, si tout se passe bien, hein, si ça saigne, c'est pas bon signe. Mais au bloc opératoire, en chirurgie réglée, hein, pas quelqu'un qui arrive avec une grande plaie, mais sinon, ça ne saigne pas. Et donc, les étudiants, quand ils viennent assister aux autopsies, ils sont impressionnés de voir les organes vraiment de leurs yeux qu'ils ont dessinés auparavant, hein, en anatomie on apprend à dessiner les organes, etc., mais c'est quand même pas la même chose, hein. Sur les dessins on dessine les artères en rouge, les veines en bleu, c'est très beau, etc. Et puis quand on arrive à l'autopsie ou qu'on voit que tout est globalement rouge, hein, ça les impressionne, hein, de voir justement ces saignements en quantité importante, hein. Donc la symbolique pour nous, elle est pas, c'est pas qu'un symbole, c'est vraiment du concret, hein, le sang.
Merci à Jacques Chiaroni, Bruno Danic, Laurence Delugin, Jean-Claude Dupont, Cécile Manaouil, Thierry Perrard, Michel Villemur, Anya Ringaert et Jean-Baptiste Thibert. Merci également à Charlet Dubois et Géraldine Mallard pour leur aide. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Prise de son, Nicolas Mathias et Yann Fressy. Mixage, Hervé Dubreuil. Le sang de la veine, premier épisode, circuler, explorer. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Anne Fleury pour la série documentaire.